Il doit quand même pas être très loin. Tu voudrais pas m'expliquer ce qui se passe? Toutes les antennes sont pareilles. Elles sont toutes braquées sur le milieu de la zone. Ils vont sans doute pas tarder à les brancher. Ça veut dire que le relais avec le satellite est dans la zone.
Ça m'étonne pas que Mick puisse pas trouver. Personne ne vient ici.
Si jamais on trouve le relais, on déchiffre le code.
Si ça marche, on va pouvoir brouiller le réseau.
Brouiller le réseau?
Ouais, c'est ça.
Mais tu déconnes ou quoi? Laisse tomber toutes ces conneries. Tu vas tous nous faire tuer. Il faut qu'on se tire de là.
Allez, va, échappez-moi.
Vince!
Excuse-nous, mais...
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important?
C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10.
J'étais
fatigué.
Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Mon Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoy. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon génie.
Voilà. Tenez-vous par les épaules, tendez les bras. Voilà. Voilà, exactement. Bon. Attention, le petit oiseau va s'envoler. Le cinéma, c'est...
dégueulasse!
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin.
Salut les kids.
Qui, je le préviens, pour nous mettre en ambiance là, avant qu'on lance l'émission, nous passe des extraits de Make to My Love qui dure une éternité. C'était insupportable, t'auras l'occasion d'en parler tout à l'heure. Tu évoqueras le Canto Doué de Kechiche et puis d'autres films français avec le temps qu'on aura pour le faire. On va démarrer cette émission en évoquant le cinéma américain, puisque j'ai été au cinéma, c'était la première fois cette année, je crois.
T'exagères un peu quand même.
Pour aller voir avec notre intérimaire Topok le dernier film d'Edgar Wright, Running Man. J'avais trois bonnes raisons d'aller voir ce film malgré tout le mal que je pouvais entendre dessus. C'était déjà la présence d'Edgar Wright, hein, qui malgré tout, moi, c'est un cinéaste qui m'intéresse. Je continuerai à aller voir ses films sans doute, malgré celui-ci. Le dernier, Last Night in Soho, même si j'étais passé un peu à côté, j'étais tout à fait capable de me rendre compte quand même que c'était un type qui sortait les doigts et qui avait des vraies qualités à ce film. Et on en parlait aussi en antenne. Ça donne envie de remettre le nez dedans un petit peu. Moi, j'aimais beaucoup Baby Driver. Je ne suis pas un aficionado particulier de sa première trilogie, mais en les revoyant à l'Arvor, notamment dernièrement, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Enfin voilà, il y a Edgar Wright, c'est quelqu'un quand même que je continuerai de suivre. Et je sais que moi, en voyant Baby Driver, je m'étais dit, oui, ben voilà, les scènes de course-poursuite, les scènes d'action, il maîtrise vraiment très très bien, quoi. Et j'ai hâte de le voir faire un film d'action. Et la Running Man avec Schwarzenegger, hein, de Paul Michael Glaser, moi j'ai grandi avec, et même si c'est kitsch et évidemment ça ressemble plus à une série B qu'autre chose aujourd'hui, avait quand même énormément de qualité en le revoyant d'ailleurs pour cette émission, j'en reparlerai, je me suis rendu compte un petit peu des qualités qui pouvaient rester à ce film, quoi. Et puis le roman dernièrement, donc cette troisième raison, tu vois, j'avais dit que je ferais court, hein. Parce que le roman de Stephen King, moi, il m'a vraiment botté et j'attendais avec impatience qu'il soit vraiment adapté. Le film avec Schwarzenegger, c'était largement inspiré du roman, mais c'était plus un remake du film français Le Prix du Danger et respectait assez peu finalement la construction dramatique et ce qui se passait dans le bouquin de Stephen King. On s'en s'éloignait même énormément. Et celui-ci de Edgar Wright revient quand même à quelque chose d'assez important comme changement, c'est que toute l'action du Running Man ne se passe pas sur un plateau télé, mais c'est dans le pays. Tout entier en fait, et tous les Américains en fait participent au jeu en fait. L'homme est traqué vraiment par tout le monde. Mais il n'en fait pas grand-chose, Edgar Wright. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce que j'ai trouvé ça très très mauvais quand même. J'ai eu beaucoup de mal à reconnaître que c'était un film d'Edgar Wright. Je me suis renseigné un petit peu. Il a la même équipe technique, grosso modo, hein, son chef-op, des gens qui bossent avec lui d'habitude, qui l'ont suivi sur ce projet-là. Alors que vraiment, visuellement, tu te poses la question hein, de mais qui est derrière cette caméra quoi. Ça ressemble à du Louis Leterrier ou du Sean Levy, hein, tu vois, de ce genre. Ah
ouais,
de,
carrément.
Bah oui, ça n'a strictement aucun intérêt visuellement, ni en termes de mise en scène dans les scènes d'action. C'est vraiment plat, c'est un truc de feignant quoi. Mais malgré tout voilà, il avait cette équipe. J'ai remarqué quand même qu'à la production il y avait le bonhomme derrière Deadpool, donc ça aide peut-être à comprendre le pourquoi du comment. Mais malgré ça, c'est pas un film cynique hein, le Edgar Wright hein, et il arrive à quand même à mettre pas aussi fort que le roman, j'y reviendrai pour finir, mais il y a quelques idées politiques quand même là-dedans. C'est pas Network, mais il y a quand même des choses qui sont dites a priori, enfin dans le roman en tout cas, sur vraiment la gestion, le monopole de la télévision, la télévision fasciste même, enfin des choses comme ça quoi. Bon, c'est, dans le film il fait pas grand chose quand même, c'est pris par dessus la jambe, mais c'est pas cynique, c'est plutôt une espèce de grosse fainéantise, de on s'en bat les couilles et de ça va passer crème, et puis on va utiliser Glenn Powell comme un sous Tom Cruise en espérant que ça fasse la blague et qu'il va emporter en fait les foules avec lui comme le pourrait le faire Tom Cruise. C'est vraiment un rôle écrit là dans le film pour ce genre de personnage, mais non, ça fonctionne pas et on se fout royalement de ce personnage, ce qui est bien dommage quand même. Et ce que je reprocherais le plus au-delà de cette fainéantise et de l'inconsistance totale de cet objet, c'est d'avoir annihiler la colère, la fureur qu'il peut y avoir dans le roman, quoi. Le bouquin est cruel et plein de colère, porté par ce personnage principal, en effet, qui va aller jusqu'au bout, quoi. Et dans le film, en fait, le seul moyen qu'ils ont eu de retranscrire cette colère, et ça l'annihile complètement, c'est d'avoir des personnages pendant 20 minutes pour l'introduction qui t'expliquent en boucle, dès qu'ils croisent le personnage principal, oh, dis donc, vous êtes vraiment quelqu'un de temps en colère, oh, vous êtes la personne la plus colérique qu'on ait jamais rencontrée. Voilà, ça se limite un peu à ça. Donc, en termes d'écriture, c'était pour moi assez navrant. Et je suis déçu et un peu inquiet parce que il y en a plus beaucoup des bonhommes comme Edgar Wright sur qui on peut compter un minimum en fait pour nous proposer des spectacles dignes
d'intérêt.
Ouais, c'est
d'autant
quoi.
Plus dommage que tu dis que le mec est relativement pur au point d'avoir abandonné au dernier délai, il me semble, un film Marvel, Ant-Man, me semble-t-il. Donc ça donne quand même une idée de la pureté du bonhomme quelque part, parce qu'il y en a pas beaucoup qui font ce genre de truc, d'être engagé sur un projet bien avancé et de se dire waouh, au final moi si je peux pas faire ce que je veux, j'arrête. Et que là pour le coup c'est quand même un projet qui l'a mené à bien. Moi j'ai pas vu le film, hein, donc j'irai pas, mais je pense que toi t'as dû regarder ça, rattraper ça, mais t'as dû voir Marche ou Crève aussi. Alors là, c'est pas des mecs qui courent, c'est des mecs qui marchent.
C'est
mais
pas aussi
j'imagine
nul,
que c'est
pas aussi nul en termes de mise en scène.
Moi j'ai pas trouvé ça nul à chier.
Marche ou Crève en termes de mise en scène, c'est vraiment pantouflard quoi. C'est les mêmes plans qui se répètent.
Comment il s'appelle, Francis Lawrence. Donc là, on est
quelque chose comme ça.
C'est pas le level du tout.
Il y a un niveau au-dessus avec Edgar Wright, mais malgré tout, tu vois, les scènes d'action elles sont, j'irais pas dire illisibles, mais en tout cas sans intérêt, c'est sûr quoi. Ouais. Et très très oubliable quoi. Elles n'ont pas effacé les quelques lignes qu'il peut y avoir dans le roman qui évoquent telle ou telle chose. Ils se permettent aussi quand même de faire un happy end qui ne fonctionne pas et qui était vraiment la chose forte dans le bouquin hein. C'est-à-dire que non, c'est jusqu'au boutiste le roman quoi. Donc là ça gâche aussi tout. Moi ça m'a ramené plutôt à l'échec plutôt attendu d'ailleurs du dernier Shane Black, Play Dirty, qui était disponible sur une plateforme je crois, avec Mark Wahlberg qui allait adapter par cœur, où là encore tu pouvais dire bah voilà, Shane Black qui retrouve ce genre du hard-boiled comme il avait pu le faire avec Robert Downey Jr, c'était Kiss Kiss Bang Bang, ouais. J'espérais un truc un peu dans cet esprit là et non, c'est pareil, c'était un truc de grosse feignasse quoi. Là pour le coup limite cynique justement, et ça m'avait, c'est l'un des pires films que j'ai vu cette année je pense, Play Dirty. Mais voilà, Shane Black, je m'y attendais un peu plus. J'avais vu son Iron Man 3 et puis son Predator. Je savais que le type était pas un bon metteur en scène. Mais bon, à un moment.
Ça, c'était quand même terrible. Ouais, ça, c'est terrible parce que moi, j'ai vu le film, le Play Dirty là, de Shane Black, comme ça, de le premier jour, et puis sans trop savoir quoi, juste sur le nom de Shane Black. Et puis tu regardes tout le film. Et puis moi, je trouve le truc nul, mais un peu marrant, la Shane Black, jusqu'au moment où je comprends que c'est l'adaptation de Parker. Je me suis dit, mais il y a vraiment un gros problème parce que c'est pas du tout ça par cœur quoi. Et là pour le coup là on est dans une opération de récupération cynique d'un personnage qui est supposé ouais, être vraiment pour le coup assez hard-boiled, mais au premier degré, pas hard-boiled, fun.
Mais c'est ça, c'est pas le dernier Samaritain.
Quoi.
En fait,
c'est
quoi.
Pas le dernier. Ouais. Déjà, même le dernier Samaritain, même s'il y a un côté drôle, il est plus hard-boiled, parce qu'il y a quand même des côtés un peu noirs dans le dernier Samaritain. Quand ça charcle, quoi.
Oui, alors que là, c'était l'impression dans un jeu vidéo, oui, oui. Surtout ce qui bouge, ouais, tu t'en fous.
Et c'est, voilà. Et en plus, pourtant, j'ai même de la sympathie un petit peu pour Mark Wahlberg, malgré ses positions politiques. Voilà.
Bon, en tout cas, le cinéma américain va pas particulièrement bien, ce qui nous permet de faire une courte pause avant qu'Antonin évoque le cinéma français. Après, je dis que le cinéma français, enfin, je sous-entends qu'il va bien, mais a priori, le Kechiche est quand même nul.
suspense. Un petit coup de camel.
Ça va, Céline ?
Ouais, très bien.
Si je peux regarder un petit peu le.
Tu veux regarder quoi ?
Juste ton corps, parce que je connais quelqu'un qui va se régaler à vous peindre.
Qui ?
Son papa.
Ah, tu parles de mon père.
Ah, ouais. Vrai, vrai artiste, franchement.
C'est vrai.
Mon père fait de la peinture.
D'ailleurs, elle aussi.
Vas-y.
Oh là là là, il va se faire un kiff. Vous allez à Hammamet alors ?
Ouais, ils vont venir.
Vous en parlez d'Hammamet, non ?
Ouais.
Magnifique. En plus, venez juste avec votre brosse à dents. Il y a tout là-bas.
D'accord, ok.
Piscine, ouais, villa de malade. Ne vous inquiétez pas, c'est les vacances.
Chichate à la menthe.
Chichate à la menthe.
En plus, je vais parler de mon père. Je lui dis, elle va pas en revenir.
Ouais, franchement, si, elle va en revenir.
Si, elle va pas en revenir.
Ah oui, d'accord.
Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu vois là? Non mais ça va pas. Non mais ça va pas. Mais qu'est-ce que tu fais avec la petite sur les genoux?
Mais laisse-toi tranquille, putain.
Mais n'importe quoi, lève-toi.
Oh, occupe-toi, hey, occupe-toi de la petite, la Charlotte.
Tu dis rien.
Charlotte, viens ici, ma chérie.
Non mais quand même, t'exagères quand même. Une gamine de 20 ans. Oh, tu sais que c'est la petite chérie d'Amine? Allez, lève-toi, ma chérie.
Mais bien sûr que je la reconnais, c'est Céline. Attends.
C'est Céline.
Non, allez. Lâche-la. Il est bourré, hein. Tu fais pas attention à chérie.
Mais non, mais moi aussi, je suis bourré.
Non, mais t'es bourré.
Oui, mais oui,
t'entends
de toi.
Je parle pas d'elle, hein. Arrêtez de conneries. Elle est mignonne comme tout. Qu'est-ce qu'elle fait sur tes genoux? Mais tu crois vraiment? Allez,
non, mais t'es pas sur musique.
Reste tranquille.
T'es sur musique.
Un petit morceau tiré de la bande originale de Make to My Love, me semble-t-il. Il s'appelle Ya Zina. Je crois que dans Make to My Love, c'est performé par l'Orchestre National de Fès, je crois. De Fès, on va dire plutôt. Parce que voilà.
Mais il n'y a pas de problème, on n'est plus à la maternelle.
Toi peut-être, mais moi j'ai quand même du mal à m'en sortir.
Moi,
hein, quand
moi
même.
Je suis fatigué, alors tu veux. Faut pas me lancer là. Et donc voilà, alors arrêtons le suspense. Enfin, ou revenons peut-être avant de crever l'abcès sur ce vieux conflit qui a eu lieu. En effet, quand Make to My Love est sorti, j'ai vraiment pas aimé ce film. Toi, tu l'as porté au nu. Il y a eu une dispute à l'émission de fin d'année. Et dans mon souvenir, elle a pas été enregistrée, c'est ça?
Ah.
Et t'es parti en faisant la tête.
Tu crois? Alors ça, j'ai aucun souvenir. Mais bon, c'est en même temps, c'est le propre des émissions de fin d'année, ça.
Voilà. Mmh. C'est dommage, c'est comme ça. Mmh. Et c'est vrai que depuis, je n'ai pas fait l'effort d'essayer de finir Make to My Love. Je pense que ce qui me freine le plus, c'est son incapacité à filmer des figurants. Mmh. Il faut qu'il y ait un personnage, il faut qu'il y ait un acteur, mais un figurant, en fait, je crois qu'il n'y arrive pas. Dans La Graine et le Mulet, ils sont à table, ils sont 12 à table, ils mangent du couscous, c'est génial, tu as l'impression d'avoir une assiette sur les genoux. Mais c'est des, voilà, c'est pas des figurants, ils sont traités comme des comédiens. Et dès qu'ils rentrent dans un espace plus large, j'ai l'impression que en fait, il est plus vraiment là, en fait, Kichiche. Et je crois que ça me freine beaucoup. Et je dis ça avec un souvenir du film. Il est sorti quand, Make to My Love?
2018.
Voilà. J'ai oui, pas revu. C'est ça. J'ai, ouais. Voilà. Bah, ça, donc ça date un petit peu. Hein. Mm. Donc peut-être que j'ai raconté n'importe quoi, mais ces souvenirs que j'ai gardés de Make to My Love, je me suis arrêté à la séquence dans un bar où je trouvais ça poussif. Mm. Mais voilà. Et alors que j'étais voilà, d'accord avec toi sur La Graine et le Mulet. Et bon, voilà. Il y a quelque chose qui se passait. Je pense que ce type a évidemment du talent et je pense qu'il est présent dans Make to My Love et qu'il doit y avoir des morceaux, même si c'est pas bien dans la suite de Make to My Love. C'est évident parce que le type a un truc de particulier pour créer des choses. Il y a un moment, j'ai envie de lui dire quand même, c'est pas parce que tu fais durer indéfiniment une scène que la vérité va forcément apparaître. Parfois, il suffit d'un plan et puis ça peut fonctionner. Il faut admettre quand t'as pas réussi. Mais voilà, il a quand même un truc.
Oui, bah après moi il a un truc, moi je pense que oui, il a un génie, hein. Enfin moi je sais que bah Make to My Love, tu l'as dit, mais moi ça a été un choc, hein. Après moi je le tiens très très haut. Enfin déjà je pense que Kechiche c'est sûrement un des plus grands cinéastes français apparus en tout cas dans les 20 dernières années, ça c'est pour moi une évidence. Je vois pas la concurrence ailleurs en fait d'avoir en moins en tout cas une voix hyper originale avec un talent un peu unique en son genre, même sur des films que j'aime moins. Je reparlerai peut-être, hein, mais voilà, là je me dis, il est dans cette, en tout cas évidemment cette veine. Alors c'est vraiment toujours aller un peu vite de dire ça, mais en même temps ça permet de fixer les choses pour ceux qui ont un peu cette veine là en tête du cinéma français, mais qui serait un peu la veine de Maurice Pialat et qui serait outre-Atlantique, qu'aurait comme cousin Cassavetes, évidemment des cinéastes qui ont vraiment une croyance éperdue dans la capacité à du cinéma a tiré sa beauté d'un enregistrement pur du réel, on va dire, qui voilà, pour aller vite encore,
pur du réel fictionnel quand même, de le créer ce réel,
ouais, voilà. Après c'est beaucoup pousser, c'est toujours plus complexe que ça, parce qu'évidemment voilà, c'est, il y a un truc qui que ça soit chez Cassavetes, c'est différent de Pialat et tout ça, mais on peut toujours les rejoindre dans évidemment des cinéastes du réel qui pense que en tout cas voilà, il y a ce qui les guide, c'est en tout cas une approche de la réalité où en tout cas ils veulent absolument capter ce qu'ils y voient à la réalité et ne surtout pas passer par une sorte de recréation,
oui, ou de travestissement esthétique, éviter énormément de conventions. C'est-à-dire que ce qui les rejoint, c'est que quand même ils ont mis de côté tout un tas de conventions qui pourraient rendre l'objet plus facile à aborder, en fait. Ils y vont de manière plus brutale.
Oui, c'est
ils
ça.
Rentrent ouais. dans l'art, en fait. Ils vont chercher vraiment l'organique dans le machin, en virant un petit peu toutes les facilités que peut offrir le cinéma et qui permet d'avoir un objet qui se vendra très bien d'ailleurs. d'ailleurs, hein, ils s'en foutent royalement. Et du coup, ils sont concentrés sur ce qu'ils ont vraiment envie de montrer, de ressortir une énergie, une émotion.
Une émotion captée. Donc, il y a quelque chose de l'ordre un petit peu, bah, des fois, ouais, du peintre ou du photographe. Enfin, il y a un côté, moi, qui me touche terriblement là-dedans. Où, moi, à chaque fois que je vois un film de Kechiche, mais tout comme quand je vois un film de Piala, Cassavetes dans une moindre mesure, parce que voilà, c'est un cinéaste à laquelle je suis moins intimement attaché. Mais moi, quand je vois ces films-là, après, j'ai quand même vachement de mal à regarder d'autres films après, parce que je me dis, en fait, là, c'est vraiment eux qui ont le truc, qui savent que, bah voilà, le cinéma, la capacité du cinéma, sa raison d'être en tant qu'art, c'est justement de pouvoir aller chercher, d'aller capter quelque chose pour pouvoir l'immortaliser sur pellicule, et que là, les capacités, on va dire, de cristallisation artistique de la caméra vont faire que on va réussir à capter en même temps ce qui est là, ce qu'on a voulu voir, tout en actant le fait que bah, ce truc-là n'existe plus, est advenu et n'existe plus. Donc il y a un truc paradoxal là-dedans que bah, je me dis, bah voilà, c'est ce truc-là, c'est le truc des lumières.
Avec et ils le font vivre.
Pour moi, il y a ça, enfin dans tous les films de Kechiche, il y a ce truc-là. C'est un cinéma qui est très particulier. Bon, le mec, on passera un petit peu vite fait là-dessus, mais le mec est clairement un peu, probablement assez fou, en tout cas suffisamment radical pour avoir quand même sabordé, quand même presque auto-sabordé sa carrière. Voilà, on pourrait le dire, voilà, le mec, il est dead à cause de toutes les théories, enfin, de l'ambiance culturelle. Il y a eu
plainte, hein, quand même.
Il y a une plainte de viol, d'agression sexuelle, en tout cas. Bon, a priori,
visiblement, en tout cas, c'est pas un mec cool. Et en tout cas, tournage, il y avait une relation abusive ou toxique ou dure, en tout cas trop dure.
Dur. Avec, après, voilà, moi je vais pas m'engager.
Les gens étaient pas ravis de. C'était pas là.
En tout cas, voilà, évidemment que tourner avec ce type-là, c'est clair et net que ça doit être assez un sacerdoce. Après, quand on a dit ça, on parle pas des trucs d'agression sexuelle. Bon, moi je sais pas ce truc-là, parce que de toute façon, il y a pas vraiment d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, sur le côté agression sexuelle, il y a une seule plainte. Elle a été vite fait dépoutée, mais ça ne veut rien dire parce qu'on sait très bien recueillir des preuves pour ça. Voilà. Bon, toujours est-il que le gars, il n'y a pas de plainte contre lui d'agression sexuelle à proprement parler. Enfin, en tout cas, il y en a une, mais il n'y a rien d'autre.
On va pas,
bref,
on,
n'allons pas sur ce terrain-là parce que c'est compliqué.
Mais son cinéma, c'est autre chose.
C'est, et après, moi, je ne suis pas du genre à.
Mais en fait, on s'enfonce.
Non, le truc, c'est. Non, mais après, je ne veux pas non plus parce que ça m'intéresse. Enfin, ça m'a. Je tiens juste, moi je suis pas du genre à séparer l'homme de l'artiste, mais voilà, c'est pas du tout le truc. Mais toujours est-il que là, il y a pas grand chose en termes de pure agression sexuelle. Par contre, en termes d'abus, de loi du travail et tout ça, de non-paiement d'heures sup, d'exploiter des gens jusqu'à 4 heures parce qu'il veut faire un 60e plan et tout ça, de faire des contrats moraux avec des actrices en disant, ouais, voilà, tiens, je te fais un cuni, mais ça va durer 5 secondes à l'écran et que ça dure 30 minutes, bah oui, et voilà, ça, je pense que, voilà. Il est abusif, voilà, c'est pas
ces films sont très personnels. Qu'est-ce qu'on retrouve de lui du coup précisément? Ces films sont très personnels, on est d'accord. Retrouve de lui, de cette personnalité que tu viens de mentionner dans ces deux derniers films par exemple, dans les Make to My Love?
Bah, moi, Make to My Love, de toute façon, après, pour moi, c'est l'histoire d'un regard à chaque fois. Enfin, pour moi, là où il y a une radicalisation de son cinéma, et ça, presque, ça rentre en contradiction avec ce que je viens de dire sur le fait que ça soit un cinéma qui est un peu brut, d'un rapport au réel hyper brut, qui presque pourrait dire, voilà, c'est une sorte d'oubli de la caméra, mais au contraire, c'est un cinéma qui ne fait que, qui est presque un cinéma hyper cérébral, dans un sens, c'est un film qui ne fait, des films qui ne font que parler de cinéma, que parler, en tout cas, peut-être pas forcément frontalement cinéma, mais du regard objectivant, qui est donc bah, le regard cinématographique qui est aussi bah, le regard de quelqu'un, le regard amoureux, qui à partir du moment où on regarde quelque chose, est-ce que dans quelle mesure on le transforme en objet, et à partir du moment où on la transforme en objet, à quel moment finalement cette chose-là est inatteignable parce qu'on l'a tuée quelque part. Donc il y a quelque chose qui est à la fois
une question de désir, mais au sens
vertigo,
mais au sens aussi de nos vies de chacun, voilà. Et mais qui est une question éminemment cinématographique parce que elle rejoint le truc du réalisme ontologique de l'image cinématographique, c'est-à-dire on capte quelque chose et à partir du moment où on l'a capté, quelque part on l'a tué aussi, on l'a soutiré à son présent et voilà. Donc moi, en tout cas, le côté de Mektoub que je trouve qui est un film que j'adore, que j'ai pu programmer en tant que programmateur de séance de deux fois, et à chaque fois je le revois en salle et je l'ai revu donc du coup mardi dernier pour l'avoir reprogrammé à l'Arvor. Et à moi, à chaque fois, c'est un enchantement. Je crois que c'est un film que je l'ai vu une fois chez moi, mais à chaque fois, je l'ai vu en salle, parce qu'à sa sortie, je l'avais vu trois fois. Et là, à chaque fois, je le revois en salle. Mais à chaque fois, c'est un truc où je vais pleurer, parce que je me dis, mais c'est de syndrome de Stendhal. En me disant, mais c'est incroyablement beau, quoi. C'est incroyablement, il y a un truc dans la représentation où je me dis, c'est fou. À chaque fois, je vais chialer à un moment où ils sont en train de monter un chemin, ils sont en train de rejoindre des chèvres et tout ça. On voit la nana avec le cul qui déborde de son short et tout ça. Et puis, ils ont une discussion complètement anodine sur des trucs amoureux. Je trouve ça.
On dirait du Romer.
Hallucinant. Mais il y a un côté romérien là-dedans.
C'est ça qui me freine en fait.
Mais
côté romérien,
de toute façon, il y a un côté parce que une fois qu'on a dit aussi le truc très brut de Keshi, genre ce rapport au réel brut, qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que les films sont hyper artificiels dans le sens où ce n'est que des constructions scénaristiques extrêmement abstraites dans le sens où elles sont posées là, l'adultère au début de Make to My Love dans le Canto Due.
C'est pas très romanesque hein,
du tout romanesque. Mais ça, c'est aussi propre à Pialet des fois, mais ça pose des situations qui sont dramaturgiquement très universelles et surtout abstraites. Quoi. Voilà, ça pose ça. Il faut emballer le réel. On met des ingrédients de fiction qui peuvent paraître complètement artificiels. Et dans les situations, par exemple, Back to My Love, c'est hallucinant à quel point d'un film dont quand on l'aime, on se dit c'est incroyable la vérité qui se dégage de ça, à quel point c'est un film où tout le monde ne fait que mentir. C'est un film où tout le monde ment tout le temps. Personne ne dit la vérité à aucun moment. Non, ils ne font que dire le contraire de ce qu'ils pensent. Souvent, c'est sur différentes modalités, hein, des modalités de lâcheté, de mensonge par lâcheté, de mensonge par intérêt. Toutes les différentes modalités de mensonge sont là. Et pourtant, on a quand même une impression de vérité. Donc, c'est une somme incroyable de paradoxes à chaque fois, hein, ces films. Et il n'empêche que voilà, moi je sais que j'avais été toujours mais ça m'a fait ça aussi pour Canto Due où le film est sorti un peu de nulle part, hein. Bon, pour rappeler pour ceux qui ne savent pas, ça intéresse un peu les cinéphiles, même ceux qui s'intéresse pas spécialement son cinéma, mais il y a un film de la deuxième Back to My Love est invisible, hein, il est passé une fois à Cannes et il ne sortira probablement jamais. Je me rappelle parce que c'était sorti au même moment, me semble-t-il, que Portrait de la jeune fille en feu. Je m'en rappelle parce que Céline Sciamma qui est reconnue comme quelqu'un d'imparable en termes sur tous les questionnements sur qu'est-ce que c'est l'objectivisation du corps féminin, on l'avait interrogée là-dessus et elle avait dit que de toute façon et je lui ai aussi écrit de dire mais de toute façon que pour elle c'était un des plus grands cinéastes et que voilà sur les questions de représentation du corps de la femme, Keshish était hyper intéressant et beaucoup plus que le tout venant du cinéma et en sachant que Portrait de la jeune fille en feu interrogeait vraiment de façon frontale et très cérébrale cette notion-là de l'objectivisation, de transformer une femme en portrait, en image et tout ça. Et donc Intermezzo n'est jamais sorti pour des questions de scandale, pour des questions de conflit avec des producteurs, mais aussi pour des questions, et principalement a priori, que c'est un film qui dure 3 heures, qui se passe dans une boîte de nuit et que ça coûte 1 million, ça coûterait 1 million de payer les droits musicaux. Donc, y a personne qui veut allonger ça pour un film qui fera pas un copec en salle. Canto Due, faut toujours encore rappeler, hein, c'est hallucinant, c'est un projet un peu unique. Hein, Canto Due, c'est les rushs de, enfin c'est pas les rushs, mais c'est, ça a été tourné il y a 8 ans quoi. C'est et donc le film a été produit avec sûrement la bande à Maraval,
c'est pas les rushs,
c'est pas les rushs,
c'est juste que le film a été tourné vraiment dans il a tourné et il l'a voilà, coupé c'est, après c'est un, il a mis c'est, un temps fou pour le monter
c'est
son
ça
film,
c'est qu'il a tourné quand il finance son film adaptation d'un bouquin de Bégodeau, c'est un film pour tel financier avec l'avance sur recette tel que c'est fait en France et tout ça, sauf que le mec il tourne et il a carrément de la matière pour avoir fait 3 films, dont un dont qu'on ne verra jamais, mais le film qui est sorti mercredi dernier, c'est le film qui a été tourné il y a 8 ans. Donc moi, après, pour parler de ce film-là précisément, là, clairement, que j'ai vu donc hier, c'est clairement, pour l'instant, une déception. Vraiment, je l'attendais énormément. Je vais aller le revoir.
T'es fatigué quand même aussi en ce moment.
J'étais fatigué, j'ai un peu dormi, voilà. Mais ceci dit, voilà, il y a aussi le truc que j'ai revu aussi Make to My Love 2 jours avant pour l'avoir repassé en salle, et que même si Make to My Love a sa sortie, j'étais un petit peu. C'est un film qui avait eu un bon accueil critique, hein, Make to My Love, qui succédait à Vénus Noire, dont on reparlera aussi, mais qui avait eu plutôt un bon accueil critique, en disant que c'était voilà, un film solaire, un film dans lequel on a envie d'habiter.
La vie d'Adèle d'abord ?
Non, la Vénus Noire, enfin, c'est après la vie d'Adèle.
Ah oui.
Oui, me semble-t-il. Et donc, du coup. C'est un film qui a été plutôt bonne presse en disant voilà, c'est le film dans lequel on a envie d'habiter, qui est génial, où on est bien avec à faire la fête avec ces gens et tout ça. Bon, moi j'avais quand ça, c'était un peu la presse de l'époque. Et il y a un peu de vrai là-dedans. C'est vrai que moi, j'adore revoir Make to My Love, parce que je me dis, mais moi, je veux trop aller danser ou faire boire des coups, boire des Heineken comme nous. Hein. Ils ont eu un gros sponsor derrière. Et avec eux, je veux revoir Kamel, tonton Kamel, et puis et rigoler avec ce type-là, et qui a l'air d'être un gros beauf, mais il est trop marrant. Et voilà, je veux ça. Mais ceci dit, j'étais qu'à moitié d'accord, parce que c'est aussi un film, comme je le disais, qui est une sorte de comédie humaine. Hein. C'était un peu le projet balzacien de Kechiche de faire une comédie humaine en 10 épisodes avec toute cette bande de gens de 7 et sauf qu'il y a, donc du coup c'est une sorte de truc, voilà, le cliché c'est voilà soleil azuréen, voilà le plaisir de la plage, de manger, le hédoniste et tout ça, mais sauf que c'est vraiment un soleil vraiment très très noir, et on sentait qu'il y avait quelque chose qui était un peu pourri dans ce truc-là, ne serait-ce que parce que le personnage de Amin, personnage principal, un peu avatar de Keshi, c'est quelqu'un qui était une sorte de synonyme d'impuissance, parce que réduit à un simple regard qui ne pouvait que regarder les femmes, le caméra relayait un peu ce regard-là, et qui était incapable d'interagir avec autrui, quasiment. Mais ceci dit, il n'empêche que la beauté de l'énergie du film, l'envie qu'on aurait pu avoir de traverser l'écran était bien là. Il y avait un côté extrêmement énergique, musical, de danse, où on veut être là, on veut être avec eux, même si on sentait que pointait une sorte d'inquiétude. Dans le premier ressenti que je peux avoir, c'est que oui, l'ambiance est vachement plus morose, quoi. Et c'est pareil, je suis toujours étonné des rapports du spectateur, enfin de la critique, de la presse, en tout cas du bruit culturel, qui dès Locarno disait incroyable, Kechiche revient, il signe une comédie, c'est hilarant. Et alors là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont vu ? Enfin, je sais pas ce qu'ils ont pu trouver d'hilarant là-dedans. Ça me paraît pas. En lisant certains textes et tout ça, je me dis, mais ouais, c'est quoi ? Ça va être une comédie ? Ça va être plus écrit ? Il va y avoir plus des mises en situation et tout ça ? Ça va être vraiment. Ça va jouer sur le côté un peu comique. Alors là, clairement, non, je vois pas du tout. Le film m'a paru. Le problème, c'est que je l'ai vu aussi en ayant vraiment de façon très fraîche Make to My Love Canto Uno en tête, et que le génie absolu de voir un film de Kechiche et de se dire mais c'est, enfin, tu vois jamais des acteurs jouer aussi justement, de voir cette évidence de leur présence à l'écran, la présence de leur personnage, la présence de leur corps, etc. Et là, bon, en sortant quasiment de la sortie de Make to My Love Canto Uno, ce côté absolument génial qui est propre à Kechiche, il était un peu, on va dire, ouais, c'était
tout frais, bah, c'était normal pour moi, quoi. Donc j'attendais de voir le film sur ce génie-là, si tu veux.
C'est la moindre des choses.
C'est la moindre des choses. Donc après, mais sauf que là, je pense que je vais, enfin, je m'arrête là parce que voilà, je vais, faut que j'attende de le revoir et que ça décante plus. Mais clairement, j'ai eu l'impression qu'il y avait, moins, moins la matière. Enfin, en tout cas, j'ai pas du tout, j'ai pas vraiment trop saisi. Ce qui pouvait un apport qui pouvait y avoir là-dessus.
Mais tu m'as quand même dit qu'il y a des choses qui restaient, c'est-à-dire que t'as vu le film, t'étais pas en état, mais il y a quand même des choses qui te restent. Donc j'essaye de te parler à l'avocat du diable. Tu sais très bien que en plus je pense que j'irai pas le voir quand tout doit. Faudrait déjà que je termine le premier. Et je suis pas prêt. Mais tu me donnes presque envie, tu vois. C'est vrai que j'avais oublié tout ce discours sur le regard, sur l'impuissance, tout ça, machin. Ça, j'essaierai de le voir vraiment avec cette optique et de faire abstraction du romérianisme de l'objet qui me met hors de moi et qui me ramène aussi, en plus, étant donné que Kechiche a été à cette réputation de tortionnaire qui me ramène à Romère, le pédophile. Donc évidemment, ça me...
Romère, le pédophile.
Mais bien sûr, le genou clair, attends. Et le genou clair, c'est quoi le genou clair? Bref.
N'importe quoi.
C'est pas le sujet. On fera une émission Romère un jour, si tu veux, je te laisserai la parole. Mais il restait quand même des choses. Je suis là, je suis généreux. Je te laisse l'occasion de dire du bien de Back to My Love au plaisir de trois auditeurs.
Moi après, voilà, on y reviendra, je pense, dans l'émission de fin d'année. Voilà, quand ça aura décanté, quand je l'aurai vu. Mais évidemment, moi, les plans qui me restent, c'est sûr qu'il y en a plein. Parce que, mais c'est ces fameux trucs où, voilà, quand tu regardes
des plans
ça.
De cul. C'est des plans de cul.
Mais en fait, déjà, il n'y a pas beaucoup de cul. En fait, enfin, là, il y a une scène de cul dans Make to My Love, une seule. Une scène de cul, hein, vraiment. Et il y en a.
Il a relevé son regard et sa caméra. Way. Parce que moi, ce qui me dérangeait surtout, c'était les plans sur les culs. C'est-à-dire qu'il fallait forcément qu'il y ait un cul dans le cadre. Oui. À un moment, j'ai l'impression de regarder le documentaire de Wiseman sur le Moulin Rouge, quoi.
Ouais, et ben non, mais en fait, moi ça m'interroge toujours, ce truc-là. Mais en fait, je me dis, eh ben, c'est le regard de Kechiche. Et en fait, ben, c'est un regard qui est un regard désireux. C'est des films sur le désir, c'est des films sur le désir de son personnage. C'est un désir inassouvi, en tout cas dans le cas de son personnage principal, mais qui est pas un désir adipeux. Bah, il y a toujours, moi il y a un truc que je trouve imparable chez Kechiche, c'est que c'est pas un cinéaste érotique. Et l'érotisme, on a beau dire, c'est toujours mis l'érotisme au-dessus de la pornographie. Sauf qu'en fait, l'érotisme, c'est beaucoup de la pratique de l'érotisme, c'est justement de la fétichisation, de transformer les corps en images,
d'aller
chercher vraiment une recréation du corps pour le rendre vraiment le plus soyeux possible. Kechiche, il n'est pas du tout érotique. Kechiche, il est obscène. Il est obscène au sens propre, c'est-à-dire qu'il est obscène dans le sens, lui, ce qui l'intéresse, c'est le grain de la peau. C'est les sucs de la peau, toutes les pores de tous les pores qui sortent. La cellulite.
Le cul, ça ressemble à Michael Mann. Ça ressemble. Fait, dans la séquence.
Il y a beaucoup de liens, hein, entre Michael Mann et. Enfin, moi,
c'est vrai que quand tu. Une scène de cul, je suis d'accord avec toi, il n'est pas là pour exciter le spectateur. C'est pas son projet.
C'est pas son projet et il est complètement à l'inverse d'une représentation de l'érotisme qui serait érotique ou publicitaire avec des grains de peau qui n'existent plus, des grains de peau artificiels gommés par soit des effets numériques, soit par la photographie qui permet de gommer aussi les trucs.
Il y a un truc qui est vieux aussi. Hein.
Là, c'est assez hallucinant à quel point non, le truc. Et n'est jamais érotique au sens propre. Non, c'est toujours. Moi, je sais que j'avais été hyper interloqué au moment où on avait passé Make to My Love. Alors, c'est vraiment de l'ordre de l'expérience personnelle qui a aucune validité. Hein, mais où le film avait eu beaucoup de rejets de la part des mecs, beaucoup Make to My Love à sa sortie. Hein, et on était pas du tout dans le même contexte socioculturel et que beaucoup de femmes aimaient le film. Et moi, ça m'étonnait pas.
spécialement parce que je me dis mais en fait c'est il y a personne ne filme le corps des femmes comme lui
sans triche,
avec toute leur leur l'obscénité d'un corps en fait le côté
parce que voilà Vénus noire il y a un rapport avec le corps qui est pas malsain et Vénus noire on était un petit peu la preuve
disons que lui en tout cas il est tout à fait conscient évidemment
cinéma,
de ce rapport là
lui ouais, dans son cinéma
dans son cinéma
cas.
Vénus noire est un film qui est imparable là-dessus qui est un film extrêmement désagréable à regarder, probablement un peu raté, qui est une catastrophe économique évidemment, mais qui est un film qui a d'un point de vue théorique sur toute la question de l'objectivisation du corps de la femme par le regard masculin est imparable sous tous ces aspects, l'objectivisation scientifique, l'objectivisation spectaculaire, l'objectivisation érotique, de tout. Le film déplie tous les mécanismes de domination masculine sur un corps féminin qui plus est un petit peu extraordinaire vu qu'il s'agissait de ce qui est devenu la Vénus autantote. Donc encore une fois avec un gros cul et des seins particuliers et tout ça. Mais voilà, il est tout à fait conscient de ça. Et d'ailleurs, pour moi, c'est des films un peu là-dessus, quoi.
Il s'intéresse pas au corps de l'homme ?
Non, très peu. C'est son regard à lui. Et je pense que voilà, il y a de ça.
Ça serait intéressant aussi, ouais. Justement, d'avoir ce genre de regard.
Complètement. Mais ça,
qu'il le partage à un moment, et peut-être avec Anto Doué justement.
Mais ça serait. Je pense que c'est un regard de désir aussi. Lui, il est mâle, il est hétérosexuel. Moi, je serais hyper curieux. C'est des choses qu'on peut voir chez Claire Denis. Peut avoir ça. Si tu veux savoir ce que c'est la virilité telle que peuvent les femmes, il suffit de regarder des films de femmes qui arrivent à filmer ça, notamment Claire Denis qui le fait très bien et là on peut voir ce que c'est la virilité, pas telle que l'imaginent les mecs mais que le voient, le ressentent les femmes, que ça peut...
Oui, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à faire la... Je suis désolé mais moi je peux ressentir parfois un petit côté limite libidineux en fait, c'est pas érotique, soit il cherche pas à exciter le chaland, c'est une chose, mais ça n'empêche pas que son regard à lui, mais comme le regard de Tarantino quand il va filmer une paire de pieds m'embarrasse aussi en fait, c'est le systématisme aussi qui me gêne et qui à un moment tourne un peu trop pour moi au libidineux je pense. Très bien, t'as une obsession et c'est pas la peine en fait de me la faire bouffer pendant 2h30, tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr, mais je pense qu'il y a de ça, enfin libidineux pour moi c'est un terme que je rejette pas complètement, je me dis mais de toute façon ça a à faire avec la libido, le mec de My Love il est clair là-dessus hein. Ça commence par une scène de cul assez hard
que
quand
lui,
même
lui-même est en train de se créer son petit film de désir, tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr, mais il y a un truc là-dessus, qui est libidineux, enfin où il a acté lui que de toute façon la représentation, que ça soit cinématographique ou picturale, ça a à faire avec la libido. Mais il le pense hein, ce truc-là, hein, je veux dire, il le pense dans son film. Hein, quand il y a un côté très très méta chez Kechiche, quand Avzia Herzi elle vient dans Make to Blind Love et qu'elle vient dire à Amin, le personnage principal, tu me regardes plus. Avant tu me regardais vachement.
Il a une conscience des choses.
Il a une vraie conscience des choses. Et enfin. Il y a quand même, enfin moi j'ai re-regardé La vie d'Adèle la semaine dernière, tu dis, c'est qu'est pas un film que j'adore, enfin parce que moi il y a un côté, le côté social de Kechiche m'intéresse moins, le côté vision, on va dire, marxiste, je le trouve des fois un peu lourd, c'est le cas aussi dans Canto Doué, le côté, les riches américains contre les pauvres arabes, français, je trouve ça toujours un peu compliqué.
Lourde.
Dans La vie d'Adèle, je sais que moi j'étais hyper gêné par le côté de la jeune bourgeoisie culturelle et bourgeoisie économique contre la jeune prolo qui a pas du tout les codes. Je trouvais ça un peu lourdingue. Il n'empêche, mais à revoir La vie d'Adèle que j'avais pas vu depuis 10 ans, tu te dis mais... Oh, c'est hallucinant. C'est un peu comme À nos amours de Piala. Tu dis, mais la découverte d'Adèle Exarchopoulos. Tu dis, mais moi, je trouve toujours que c'est une actrice extraordinaire, Adèle Exarchopoulos. Je trouve que, même dans des films que j'aime pas, hein, je trouve toujours que c'est une actrice géniale. Mais par contre, quand tu revois La vie d'Adèle, tu dis, mais c'est incroyable, la découverte, comment il la filme, le naturel, le corps, comment il peut la capter sous toutes ces je trouve ça c'est rare, enfin c'est ouais, vraiment très
calme,
rare.
Calme,
et c'est pas une question de désir sexuel.
Non,
du
mais
tout.
Tu t'évoquais, il nous reste 5 minutes, t'évoquais Avie Herzi, et elle justement, oui. C'est intéressant parce que quelques semaines avant, elle a sorti aussi c'est son quatrième, cinquième,
oui, c'est son quatrième film si on compte le téléfilm qu'elle a fait
justement,
pour
on avait
Arte.
Découvert dans La Graine et le Mulet, nous en tout cas,
voilà, moi que quelqu'un que j'adore en tant qu'actrice et en tant que réalisatrice aussi, parce que j'avais trouvé que son premier film Tu méritais un amour était hyper bien, et que Bonne-Mère aussi c'était vraiment super, et que j'ai toujours trouvé qu'il y avait une qualité de regard chez cette cinéaste là hallucinante. On pourrait aussi parler de sa carrière d'actrice que je trouve hallucinante. Hein. Moi, il y a des films. Moi, s'il y a un film avec Avie Herzi, il y a des grandes chances que je le regarde, parce que je trouve que même dans les films moyens, elle a une qualité de jeu, d'absence à elle-même, qui fait qu'elle est toujours dans le rôle et à côté. Je le trouve incroyable.
Elle est naturelle constamment, quoi.
Elle est naturelle, mais je pense qu'il y a un vrai. Je pense à un film comme Le Ravissement là, qui commence à être un peu dispo là sur les en VOD ou illégalement. Hein, d'ailleurs, si vous voulez le voir, mais je le trouve incroyable Avie Herzi là-dedans. Et je trouve que c'est une actrice énorme. Et en tant que cinéaste, en tout cas, elle m'intéresse beaucoup. Et j'ai trouvé que ouais, La Petite Dernière, c'était une catastrophe totale. Et c'est vraiment une déception.
C'est le film promu. Donc voilà, c'était musulmane et lesbienne.
Voilà, c'est ça. Enfin, pour moi, mon côté directeur de salle me disait ah, putain, super, là, banco, là, on va faire du cash parce qu'il y a tout qui est coché. Il y a quatrième
le
film d'une.
Télérama va être content.
Il y a tout. Quoi. Il y avait l'islam, l'homosexualité féminine, il y avait réalisatrice, il y avait quatrième film de réalisatrice, donc vraiment film d'un coup, le film où d'un coup t'explose. Et en fait, j'ai trouvé que le film était une catastrophe. Bon, le film, mon côté exploitant vous informe que le film a bien marché, mais pas tant que ça, beaucoup moins que ce que mon côté exploitant aurait aimé. Mais par contre, oui, c'est le film a hyper interloqué parce que c'est un film qui est sous influence Kechiche mais de façon radicale. Il a la même façon de représenter l'homosexualité féminine. S'il y a une chose qu'on peut bien reprocher à La Vie d'Adèle, c'est que tu dis la représentation, alors moi je suis pas lesbienne évidemment, mais que la représentation des scènes sexuelles d'amour homosexuel sont quand même, tu dis ouais, je sais pas, j'y crois pas. mais par contre,
le côté érotique, il est pas loin là pour le coup dans La Vie d'Adèle, hein.
Non, c'est vraiment obscène un peu quand même, mais enfin bon, bref, de toute façon je vais pas me prononcer là-dessus, mais par contre c'est ce qu'il y a de marrant, c'est qu'Avie Herzi, en tout cas, là où je me suis dit ça craint pour le succès financier du film, c'est que je me dis là elle a repris à son compte l'obscénité de Kechiche, donc du coup les petits vieux vont pas suivre, ils vont pas vouloir voir ça. Les petits vieux qui forment la majorité du public RSA, ils vont pas venir. Et en plus de ça, moi cinéphile me disait oh putain, c'est vraiment plaqué quoi. Le côté, le rapport au corps de toutes les nanas qui sont hyper sexuées, les représentations des cuisses.
Peut-être que t'es pas ouvert au regard féminin.
Peut-être que c'est ça. Et en fait, je me disais oh putain, c'est vraiment une émulation du style de Kechiche. Il y a jusqu'à des scènes avec des gens qui parlent la bouche pleine, qui balancent des bouts de pâtes. Dans l'an, tu dis ah ouais, mais non, il faut pas copier quoi, il faut pas copier. Ça devient c'était un gimmick hein, chez Kechiche, hein, quasiment ce truc là de bouffer, d'avoir
oui,
des
oui,
bouts de bouffe.
Il fallait voir la morve, la bave, la bouffe, le caca. Il fallait voir l'organique.
Bien
hein,
sûr, il faut tout ce qui sort du corps, tout ce qui rentre dans le corps quoi. C'est vraiment, il pourrait faire un film d'horreur, lui, ça serait le truc le plus. Cronenberg, il pourrait aller se rhabiller, je pense. Si vraiment il s'attelait au projet, ça serait vachement plus fort. Et par contre, pour finir là-dessus, et ça n'a un peu rien à voir avec le rapport à Kechiche, ce pourquoi La Petite Dernière, c'est une catastrophe. Enfin, c'est à mon sens quand même vraiment, vraiment un ratage total. C'est que le projet de faire communiquer la foi. Avec un rapport au sexe contraire à sa foi, ou en tout cas au dogme de sa foi, c'est absolument pas traité. Et là pour le coup, tu dis ah, c'est vraiment un problème, parce que vraiment c'est hyper intéressant. C'est sûr, ça vient du bouquin que je n'ai pas lu, qui est autobiographique d'une nana très très musulmane et qui vit son homosexualité de façon un peu semi-débridé, on va dire, en tout cas, qui la vit frontalement et qui raconte en tout cas le gros gap qu'il peut y avoir entre les deux, le truc irréconciliable, mais qui le travaille, cette irréconciliabilité entre les deux trucs. Tu dis ça, c'est ça le sujet, mais c'est imposé, enfin, c'est très dur à saisir.
C'est ça, c'est
vrai. Et en fait, le film.
Ça demande d'avoir des idées fortes, quoi.
Des idées fortes, et il faut le faire dialoguer en tant que mise en scène et tout ça. Il faut faire dialoguer la représentation du corps dans son. Dans tout ce qui ça peut avoir justement de plus obscène, avec la transcendance de la foi, et tout ça, tu dis, ouais, putain, mais c'est que des questions cinématographiques, donc c'est pas impossible à faire. Là, tout est évité. Elle évite tout. Donc on a une scène où elle prie, et puis après une scène où elle baise. J'exagère, mais et puis en fait, rien de dialogue, quoi. Tel point que tu demandes à qui que ce soit de quoi parle la petite dernière, et il ne dira jamais, ça parle d'une façon d'une nana qui est musulmane, il te dira c'est une jeune arabe prise dans un truc traditionnel. Et c'est ce qui n'est pas le cas. Là, le sujet du film, c'est une nana qui est musulmane, pas le rapport traditionnel du jeune, du truc, de, comment on appelle ça, du coming out, ça devrait être accessoire là-dedans. Là, elle, ce qui est le problème, le dilemme du personnage, c'est
intérieur,
sa foi, c'est pas
c'est
sa tradition.
Un conflit interne, c'est sa foi. Mais comment traduire un conflit interne en mise en scène, c'est toujours problématique.
Voilà. Donc, dommage pour moi. Ma déception de l'année.
Ta déception de l'année, il nous reste 2 minutes. On va pas les gâcher, ça serait dommage. Je te propose, t'avais un troisième film. Ah, juste rapidement, parce que moi ça m'intéresse et je sais pas si j'aurai l'occasion de voir. Un cinéaste français a sorti Dossier 136, Dominique Moll. Et c'est vrai que moi c'est un cinéaste qui on le bazarde un petit peu. Je suis désolé pour lui et pour son film. Honnêtement, c'est un film qui m'intéressait, que j'attendais même, en ayant vu ses deux derniers films, Seules les bêtes et puis La nuit du 12. Je me suis dit, Dominique Moll, il fait partie maintenant de ces cinéastes que je pourrais considérer comme des cinéastes du milieu. En fait, c'est-à-dire que des bonhommes qui sont droits dans leurs bottes, qui font les films qu'ils ont envie de faire, avec non pas des stars mais des acteurs semi-populaires, très souvent. Là, c'est les Drucker, je crois, qui voilà. Donc ils vont quand même avoir leur avec une qualité de mise en scène et puis une espèce d'intransigeance, en tout cas c'est ce que je ressens dans son discours. Et là dernièrement, je sais qu'il citait par exemple, par rapport à Dossier 137 et même ses précédents films, comme influence principale le Lumet, mais le deuxième partie, c'est-à-dire vraiment à la recherche du gris, quoi. Ouais. Et je me dis, bah putain, c'est
bah
précieux,
oui, c'est marrant, parce que moi j'ai rien lu sur le film et j'avais pas vu qu'il citait ça, mais c'est en parlant avec des étudiants cet après-midi, c'était la référence que qui me venait. Je me dis, bah oui, c'est ça, parce que justement il pouvait y avoir un reproche du film au film qu'il n'était pas assez radical. J'ai mis, c'est pas du tout le projet de Dominique Moll d'être radical.
Moi ça m'intéresse vraiment, en fait, cette position.
Ouais. Et en fait, non, moi je trouve le film très très, enfin, très bon, évidemment, sans être un chef-d'œuvre, parce que ce n'est pas Sidney Lumet non plus. C'est des films qui sont, mais par contre c'est un film qui est vraiment solide et qui questionne vraiment bien.
Qui revient sur les violences policières.
Qui revient sur les violences policières, mais moi je trouve de façon très chirurgicale, comme c'est souvent le cas avec Dominique Moll, qui peut être sa limite sur certains films, parce que ça peut être assez froid et très désincarné, parce que au final c'est un cinéaste qui est très cérébral. Dans le sens où il parle vraiment, c'est pas pour rien que souvent il y a des scientifiques, des flics, des gens dont les vies professionnelles sont habitées par des protocoles,
oui,
pour capter la vérité.
Une attitude professionnelle.
Et qui ont tout à fait ça, c'est vraiment ça, c'est des professionnels. Et le film, moi je trouve que travaille vraiment, et c'est vraiment le sujet du film, c'est vraiment les protocoles pour aboutir à la vérité, et à quel point les billets cognitifs et politiques et sentimentaux et familiaux qui vont pouvoir altérer de façon voulue et nécessaire et louable, ou au contraire peut-être plus fallacieux, les billets fallacieux qui vont altérer ces protocoles d'établissement de la vérité. Bon, c'est très abstrait tel que je dis, mais j'ai trouvé le film très solide.
Si tu présentais Le Prince de New York, ça pourrait être juste, enfin pas abstrait, mais avoir ce côté un peu froid, ce qui n'empêche que c'est un des plus grands films. Bon, en effet, tu dis, il a peut-être pas, mais voilà, ça m'intéresse, et surtout j'en parle parce que on évoquait en début d'émission Edgar Wright et puis Running Man, qui est un échec. Je ne suis pas contre le fait que ce film-là ne fonctionne pas, si ça veut dire ne pas en avoir d'autres du même acabit, alors que justement le cinéma de Dominique Moll, je pense, par rapport à ce que j'en ai vu, et je suis sûr que Dossier 136 correspondra à ça, ça pour le coup j'ai envie d'en voir plus en fait, quoi, ouais. Que ce soit dans le cinéma français ou ailleurs d'ailleurs en fait, mais j'ai envie d'en voir plus.
Ouais. Non, et puis il lui manque probablement un peu la brillance que peut avoir, après on en avait déjà parlé dans les émissions Lumet, hein, déjà c'est vrai que ça pourrait rejoindre complètement ce que disait Lumet quand il disait que bah, Prince de New York, je veux pas Pacino, parce que Pacino c'est de la brillance en gros, c'est quelqu'un qui va capter le truc, et ben Dominique Moll il pourra toujours avoir ce problème là qui fait qu'il va satisfaire ni l'un ni l'autre. Ça marche bien les films, hein, mais ça sera condamné à toujours faire des trucs un peu moyens, parce que et ben y a rien qui est évident. Et qu'il faut pas avoir un personnage trop attachant, trop brillant de héros et tout ça pour
ou un acteur trop connu justement
acteur,
qui va tout de suite.
Il faut pas un discours trop clair. Il ne visera jamais un discours trop clair parce que bah sinon ça il dénaturerait complètement son cinéma et bah ça le condamne quelque part à être dans une zone intermédiaire qui est assez intéressante.
Moi que j'ai envie de soutenir en tout cas.
Oui.
C'est là qu'il y a le truc. Donc voilà, j'invite tout le monde, même si je ne l'ai pas vu, à voir Dossier 137 de Dominique Moll. On se quitte malheureusement puisqu'il est l'heure d'arrêter cette émission. Il y a un moment où il faut arrêter les conneries. Vous pouvez la retrouver bien évidemment comme toutes les autres en podcast sur le site de Canal B et puis les liens hein, sur les réseaux sociaux que le docteur utilise. Merci de nous avoir accueillis dans ton bureau de patron. Je ne l'ai pas dit, c'est la première fois qu'on faisait l'émission enregistrée dans le bureau du patron de l'Arvor.
Non, c'est la deuxième fois, tu rigoles.
Ah non, on l'avait pas fait ici.
Ah ben si, on l'a fait la dernière fois, tu étais bourré.
C'était chez toi, ça. Bref, oublions. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se quitte, j'imagine, avec encore Make to My Love ou un truc dans le genre. De toute façon, tu m'en as fait écouter pendant une heure. J'en peux plus. On va refaire le montage et je vais modifier les extraits.
Là.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, Antonin.
J'ai envie de revoir Make to My Love.
Et à très bientôt. Ciao.
Ciao, bisous.
Bah, maintenant on le sait, hein. Toute civilisation est mortelle.
Même les films.
Surtout ce film.
Donc on boira l'œil à la fête après.